France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, sur le canal 27 de la TNT. Alors vous le savez, aux informés de France Info, on vous dit tout. Et là, nous sommes dans, comme on dit dans le jargon journalistique, dans l'antichambre de la grosse actu, Coco. Voilà, parce que cette semaine, on parlera beaucoup de justice, hein, de dépôt final de 500 signatures, de Brexit et d'élections aux Pays-Bas. Et en ce lundi, nous sommes... Eh bien, juste avant ça, alors pour innover, nous avons pensé un moment faire une demi-heure sur cet adolescent d'Avignon hein, qui a été mordu par un chameau sur le chemin du collège, puisque personne ne parle hein, de la délinquance camélidée. Mais bon, voilà, on n'a pas été si loin. On s'est dit que c'était peut-être un peu trop tabou, donc on va revenir aux fondamentaux, comme on dit. Hein. Et pour en parler ce soir de l'actualité du jour, nous recevons Michel Urvois de Ouest France. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également Laurent Mauduit de Mediapart. Bonsoir.
Bonsoir.
Claire Sercombe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Et François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, donc, quatre débats bouillants d'actualité. On parlera politique avec ce front républicain qui revient à la mode. Turquie, ça se tend. Le pape a 4 ans, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Un ami m'a offert des costumes et alors ? C'est ce qu'on appelle un cas de communication ou comment mettre les communicants au chômage avec cette expression. Et alors, c'est super, hein, ça marche pour tout. D'ailleurs, s'il devient président de la République, quand un conseiller dira à François Fillon « c'est embêtant, la croissance n'est pas au rendez-vous », François Fillon répondra « oui ». Et alors, on se demande pourquoi il n'a pas utilisé dès le mois de janvier, hein, ça aurait été plus simple. 48 500 euros depuis 2012 pour des costumes offerts par un mystérieux ami à François Fillon. En voilà une nouvelle couche hein, pour le candidat de la droite. Aujourd'hui, d'ailleurs, François Fillon présentait son programme et il n'a pas trop changé, en fait, hein, depuis les primaires. La fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, la suppression de 500 000 emplois publics et celle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, la refonte du Code du travail ou la réforme de l'assurance maladie. Et, bon, alors ça ne plaît pas, c'est pas étonnant du tout, à la gauche comme Benoît Hamon.
Retraite à 65 ans, 35 heures, 500 000 fonctionnaires en moins, 100 milliards de réduction de la dépense publique. C'est une thérapie que la France est incapable de soutenir et de supporter. La France est un équilibre fragile, surtout en période de crise, surtout à un moment où elle doute. Et moi, je ne vois que désordre et inégalité à la clé. Voilà, il va appuyer là où ça fait mal à des millions de Français qui n'en peuvent plus aujourd'hui d'être les seuls à faire des sacrifices. Je le crois vraiment très dangereux, et très dangereux de surcroît dans l'obstination qui est la sienne.
Voilà, Benoît Hamon, donc le candidat de la Belle Alliance Populaire. Alors, juste avant de parler de son programme, Laurent Mauduit, quand même, cette affaire dont on parle depuis hier dans le journal du dimanche, révélé par le journal du dimanche, de costumes hein, offerts, ça laisse planer quand même un doute aujourd'hui supplémentaire sur François Fillon.
Oui, c'est un candidat, comment dire, c'est une sorte de... C'est une bombe à retardement permanente, c'est une sorte de bombe à fragmentation, cet homme-là. Mais du coup, on se dit qu'il faut dépasser cet homme-là, parce que on a envie parfois d'en rire. C'est tellement un gag avec lui pendant sa conférence de presse, qui par ailleurs dit que si lui est élu, il imposerait un code de bonne conduite.
Exactement.
À ses ministres. Ouais. On en tombe à la renverse. Mais en même temps, il y a un aspect pathétique dans cette histoire, parce qu'on sait bien que ce qui en souffre, c'est l'état de notre démocratie qui en ressort en miettes. Parce que, si je peux me permettre de dire les choses de manière plus sérieuse, c'est que, en fait, cette affaire montre qu'on est dans un système français mafieux. Pardon de dire mafieux,
mais... Mafieux, vous,
oui, je dis mafieux, parce que souvent, on a parlé de l'Italie en disant que c'était un capitalisme mafieux. Et on avait une sorte de regard arrogant vu de France sur l'Italie. Le système mafieux italien est assez particulier. C'est une mafia liée au crime. Nous, on a un système, et on le voit à travers cette histoire et d'autres histoires qu'on a chroniquées, toute la presse a chroniqué. On a un système mafieux du haut, pas du bas comme en Italie, du haut. Mmh. On a un système mafieux oligarchique. C'est-à-dire que c'est les puissants au sommet qui s'émancipent, qui s'exonèrent des règles que le commun des mortels doit respecter. Et donc, je pense que c'est ce que l'on vit est gravissime.
Ouais, alors, François Dorcival, il y a François Fillon qui, lui, dit c'est ma vie privée, ça n'a rien à voir avec sa vie d'élu. Donc, fin de l'affaire.
Oui, mais il y a un an, dans le magazine People, de mode, masculin, etc., qui s'appelle GQ.
GQ. Vous pouvez le dire en anglais.
GQ,
voilà.
Très bien, en anglais.
Non.
Il y avait un concours des Français les plus élégants.
Oui.
Il y en avait 20. Mmh. François Fillon était en 15e position parmi les stars de la télévision, d'autres écrivains, Jean d'Ormesson, etc. Et Le commentaire était le suivant. François Fillon est l'un des rares hommes politiques à avoir une vraie prestance vestimentaire sans en faire trop. Mmh. Ou comment s'habiller en adulte responsable sans tomber dans le piège du conformisme. Ceci pour répondre au propos de notre ami Laurent Mauduit.
Voilà la réponse.
Laurent Mauduit.
Voilà. Alors, non, mais ce qui peut étonner juste François Lorcival, je sais votre passé de chroniqueur de mode, qui a très bien marché, mais là, les 48 500 euros offerts par un ami. En fait, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie? Voilà, en fait, c'est ça.
Moi, ça, je ne peux pas vous dire qu'il y a une contrepartie. Je ne connais pas l'ami. Tout ce que je sais, c'est que la boutique d'où sortent ces costumes, les costumes valent ce prix-là, etc. Oui. Bref, tout des tas de bêtises que l'on peut encore commenter pendant quelques jours, mais qui vont forcément s'éteindre. Moi, je suis frappé quand même par l'explication de Laurent.
Il y a une prise de judo compliquée, à mon avis.
Non. Parce que l'oligarchie capitalistique mafieuse, ça ressemble quand même vachement à une théorie complotiste. Enfin, on a l'impression qu'on est enserré dans des personnages constamment fantasmatiques de la présidentielle. François.
Mais bien sûr. Alors, je suis sûr que vous allez vous donner vos documents, mais justement, Claire Sercombe, pour vous, cette histoire, alors forcément, c'est pas la plus grosse histoire par rapport à ce qu'on vit depuis le mois de janvier, mais c'est-à-dire que ça rajoute pour vous encore une couche. Est-ce que d'ailleurs on y fait attention ?
Là, le problème, c'est de la cohérence en politique, en fait. On a un homme qui a un programme économique extrêmement libéral et dur, où il nous demande de faire des efforts, et d'un autre côté, on sait qu'il a fait fructifier sa petite entreprise familiale pendant de nombreuses années avec ses indemnités d'élus et tout le système des collaborateurs parlementaires. Moi, je ne sais pas si François Fillon est quelqu'un qui a beaucoup d'humour quand il propose un code de déontologie pour son gouvernement, auquel cas c'est un humoriste incompris, ou si c'est qu'il est complètement déconnecté de la planète Terre. Mais le vrai problème, c'est que on parle plus du fond en fait de cette campagne. Moi, j'adorerais débattre quand il parle de supprimer les 35 heures, des conséquences en fait pour les femmes au travail. Mais c'est même plus possible tellement tous les jours il y a des choses qui surgissent de nulle part.
Alors justement, on va parler de son programme qu'il a présenté aujourd'hui François Fillon lors d'une conférence de presse. Mais l'info à 20h10. Avant ça, c'est Yasmina Adila.
Angela Merkel ne rencontrera pas Donald Trump. Un rendez-vous était prévu demain à la Maison-Blanche. Problème, une tempête s'abat en ce moment sur l'est des États-Unis. De fortes chutes de neige sont attendues dans la nuit. Des centaines de vols ont été annulés ou reportés. Cette tempête pourrait être la plus importante de la saison. La circulation des trains perturbée jusqu'à demain dans le Rhône. Un fret a déraillé au sud de Lyon. 40 tonnes de bioéthanol se sont déversées sur les voies. Des dizaines de pompiers sont mobilisés pour tenter de réparer les dégâts. Les deux axes les plus touchés par les perturbations, Valenceville-Lyon via Vienne ou encore Saint-Étienne-Lyon-Pardieu. Une figure de la déradicalisation jugée à Paris. Cette femme était responsable d'une structure accompagnant les familles de jeunes tentés par le djihad. Reconnue coupable de détournement de fonds publics, elle écope de 4 mois de prison avec sursis. Elle doit également verser près de 25 000 euros de dommages et intérêts. 4 skinheads renvoyés devant la cour d'assises dans l'enquête sur la mort de Clément Méric. Ce jeune tué en 2013 lors d'une bagarre entre jeunes antifascistes et ultranationalistes. 2 d'entre eux seront jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les 2 autres pour violence volontaire. Stationnement résidentiel gratuit demain à Paris. Un nouveau pic de pollution est attendu dans la capitale, selon la maire de Paris. D'autres mesures pourraient être prises dans les prochains jours. Tout dépendra de l'évolution de la situation.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de François Fillon, de son programme qu'il a présenté. Michel Urvois, ce que disait Claire Sercombe juste avant le rappel des titres, c'est il a beau présenter des mesures, finalement, il y a toujours quelque chose qui le rattrape. Ça veut dire, mercredi, c'est son rendez-vous avec les juges. Est-ce qu'on aura oublié ce qu'il a dit aujourd'hui par rapport à son programme, François Fillon ?
Aujourd'hui, effectivement, c'était une tentative de revenir sur le fond, sur son projet, qui est occulté à chaque fois, comme le disait Laurent Mauduit, par des rebondissements attendus ou inattendus. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est que, dans l'histoire du costume, c'est qu'il risque de se faire tailler un costard électoral, tout simplement, parce que le montant est un problème. Et la méthode en est un autre. Vous imaginez les gens, combien de personnes, combien d'électeurs se font offrir pour 48 000 euros de costumes ou d'autres choses, sans parler de l'aspect déontologique que la déontologue de l'Assemblée va certainement regarder pour vérifier qu'il n'y a pas de lien entre ce cadeau et la fonction. Il y a aussi un aspect fiscal. Ces choses-là doivent être signalées au fisc. Et l'aspect politique, c'est que, bah, effectivement, c'est extrêmement difficile de faire comprendre, de se prétendre hors système et le plus près possible du peuple quand on a des pratiques comme ça.
Alors justement, on va juste parler un petit peu de ce dont il a, ce qu'il a évoqué aujourd'hui François Fillon, donc de son programme. Il n'y avait pas trop de changements, Laurent Mauduit, finalement, par rapport à son programme des primaires, sauf, on l'a dit, en effet, ce fameux code, donc pour prévenir les conflits d'intérêts dans la vie politique. Il y a eu des petites choses aussi, comme une hausse moins forte de la TVA, baisse des charges plus importantes pour les salariés. Ça veut dire que il va tendre des mesures un tout petit peu plus populaires. Aujourd'hui, sur la baisse des charges, par exemple, sur les salaires,
baisse des charges. Vous avez vu que les mots que vous employez, de charges, oui, c'est le langage patronal.
Exactement.
Ça pèse, ça étouffe. C'est le langage de François Fillon et du MEDEF. Non, écoutez, c'est un programme pour les riches, ce qu'il fait. Un programme pour les riches. La hausse de la TVA, la suppression de l'ISF, la déréglementation encore plus violente que ce qu'a fait El Khomri du Code du Travail. Voilà, ça reste thatchérien, même si là, sur le volet santé, il ne prend pas la brutalité de l'ancien dispositif au moment des primaires, même si sans doute il doit toujours y penser. Non, mais honnêtement, moi j'ai du mal à décrypter le programme, parce que qu'attend-on de, que pourrait attendre, sinon de lui, en tout cas de son camp, du côté des Républicains? C'est, il faut d'abord tirer les leçons de ce qui s'est passé, il faut une grande réforme démocratique, plus jamais ça, plus jamais ça.
C'est-à-dire, vous dites ça quoi,
je termine, j'explique, en Suède, quelqu'un qui prend 5 euros d'argent public dans sa poche pour payer un taxi, sa carrière politique s'arrête. Il ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas d'ambition de ce côté-là, à droite, de refondation démocratique. Il faut en finir avec les affaires. On vit sans arrêt.
Est-ce que c'est ça, François?
Ce matin, il vous parle de ce sujet parmi les autres, puisqu'il s'agit de parler de son programme.
Mais vous pensez que qu'est-ce que vous dites, il y a un instant, je n'ai pas envie d'être dans la scénarisation
qu'il met
au point.
Vous ne pouvez pas, en tant que journaliste,
j'ai mon agenda de travail. Pour l'instant, les Français sont focalisés sur une chose, comprendre quel est ce système d'argent dans lequel il est pris. Donc, pardon, on ne va pas jouer les présidiateurs, parlons d'autre chose.
Mais écoutez, parlons d'autre chose. Vous le réclamez. Vous réclamez qu'on parle de son programme, et en particulier de son programme économique. Et immédiatement, vous dites, tout ça n'a aucun sens, il faut refaire la démocratie. Moi, je veux bien qu'on refasse la démocratie, la République, etc. Il n'empêche que le président de la République, qui va être élu le 7 mai, eh bien, il va avoir en face de lui une situation économique et financière très dégradé,
démocratiquement illégitime.
Il a dit ce matin, la légitimité, c'est vous en parlant aux Français, en parlant aux électeurs. Si ces affaires étaient sorties il y a 3 mois ou il y a 4 mois, je pense que, enfin, avant la primaire ou pendant la primaire, je pense que il n'était pas candidat. Aujourd'hui, il reste le candidat. Peut-être vous par défaut, que... peut-être avec, mais il est candidat et il a un projet. Et il a un projet de droite. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Il est de droite. Il est libéral, il est très cohérent et j'irai plus loin. Je pense que c'est nécessaire dans le débat qu'il y ait ce projet-là. Parce que, imaginez que François Fillon, tout d'un coup, doive se retirer. Qu'est-ce qui se passe dans le chamboule-tout politique? Qu'est-ce qui se passe? Marine Le Pen au premier tour?
Donc vous dites, pour la confrontation politique, c'est important, ce programme.
C'est important.
Vous-même, qu'est-ce que vous avez retenu finalement aujourd'hui de ce programme? C'est vrai qu'on le connaissait à peu près, on en avait beaucoup discuté pendant les primaires de droite. Il ne change pas trop, François Fillon. Et alors, il a juste dit une chose ce matin sur Europe 1. On se souvient de, il entretenait les flous sur concernant les fonctionnaires, le passage 39 heures. Alors à l'époque, on se demandait combien ça serait payé. Est-ce que ça serait toujours payé 35? Alors lui a parlé. En fait, on a appris qu'après le passage aux 39 heures, il y aurait des négociations qui s'ouvriront pour augmenter les salaires. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a changé un tout petit peu, François Fillon ? Est-ce qu'il a modifié des petites choses ?
Je n'ai pas l'impression, par rapport à ce qu'il portait dans les primaires, qu'il y a beaucoup d'évolutions. Il y a eu pas mal de rétropédalages sur... Enfin, pas vraiment des rétropédalages, mais des ajustements, on va dire, sur la sécurité sociale, qui était quand même le sujet le plus sensible. Mais juste pour revenir au débat qu'il y avait juste avant... Non, mais juste, en fait, moi, je suis désolée, ça me fait mal à la démocratie de savoir qu'il y a un candidat qui est mis en examen, qui va pouvoir être candidat et se présenter aux élections. Et si on commence à se dire, OK, il est peut-être mis en examen, mais c'est Laurent Parr face à Marine Le Pen dans une stratégie du moins pire, mais il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens n'aillent plus voter. C'est ça aussi qu'il y a derrière.
Non, ça, c'est ce que, effectivement, on entend beaucoup, ce que vous venez de dire, à gauche. Il se trouve que dans ce pays, il y a une gauche et une droite. Vous n'imaginez tout de même pas que la droite va être privée de candidats et qu'il n'y aurait plus de choix qu'entre Marine Le Pen, et puis trois candidats de gauche.
L'éthique publique devrait s'imposer à tout le monde, et droite. Laissez-moi François terminer. Oui. Donc la question n'est pas une question de regard politique. Il fut un temps dans le pays où il y avait des grands démocrates, et il y en a toujours, qui font entendre leur voix en disant, regardez, parmi ceux qui ont démissionné, il y en a certains qui ont tenu un propos digne.
Démissionné de la campagne de François Fillon.
Nous ne pouvons pas l'accompagner parce que éthiquement nous ne sommes pas d'accord. Donc c'est pas un clivage de
droite,
c'est une
question
d'éthique publique. Une démocratie ne meurt pas quand elle tolère des pratiques de ce type-là ?
Michel Hurvoy, on entend beaucoup depuis le 25-26 janvier, date des révélations du Canard Enchaîné, ce terme de morale. François Bayrou en parlait quand il a rejoint Emmanuel Macron, une loi sur la modernisation de la vie politique. François Fillon maintenant veut un code de bonne conduite, c'est-à-dire que ça s'est invité dans cette campagne ?
C'était déjà un peu présent. François Bayrou, c'est pas la première fois qu'il demande ça. Non, c'était à peu près dans tous les programmes, mais peut-être pas en celui de François Fillon, en tout cas pas avec le niveau d'exigence qui a été présenté ce matin et qui effectivement peut faire sourire. Mais si je peux revenir sur le contenu.
On est mauvais élèves ce soir.
J'ai vos carnets. Pendant la primaire, les choses sur le paiement des heures, du passage de 35 heures à 39 heures des emplois publics, n'avaient pas été précisées, me semble-t-il.
C'est ça.
Ça a été dit récemment.
C'est ça.
Et c'est important parce que, alors c'est intéressant parce que c'est une perspective d'augmentation de salaire pour ceux qui seraient soumis, mais ça change l'économie globale du projet de François Fillon. Parce que s'il paie 39 heures ou 38 ou 37, peu importe, mais s'il augmente la dépense publique avant de diminuer le nombre des fonctionnaires, vous allez voir les déficits et vous allez voir la difficulté dans la relation européenne.
On va continuer à en parler un peu de politique, mais cette fois-ci plus générale, notamment d'attitude face au Front National. L'info à 20h20, c'est Yasmina Adila.
Un trafic des trains perturbé jusqu'à demain dans le Rhône, conséquence du déraillement d'un fret transportant du bioéthanol. 40 tonnes de ce carburant hautement inflammable se sont déversées sur les voies. Pas de victimes, mais le plan hors sec est déclenché. L'arrestation de 8 personnes dans les Yvelines pour détournement d'argent au préjudice chez EDF. Plusieurs employés de l'entreprise figurent parmi les interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir modifié des numéros de compte clients. Ces suspects auraient généré des trop-perçus et encaissé ces virements. Le préjudice est estimé à 700 000 euros. Le procès du terroriste Carlos s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Cette figure du terrorisme comparaît près de 43 ans après l'attentat du drugstore Publicis à Paris. C'était en 1974. Attaque à la grenade qui a fait 2 morts et 34 blessés. Le Vénézuélien s'est présenté à la barre comme révolutionnaire professionnel. Il a dit assumer son passé au nom de la cause palestinienne. Carlos a déjà été condamné 2 fois à la perpétuité pour d'autres attentats. Les députés britanniques viennent de voter la loi du déclenchement du Brexit. Pas question de sortir de l'Union européenne pour les Écossais. La première ministre veut organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Nicola Sturgeon déposera une demande au Parlement dès la semaine prochaine. La fusion de 2 géants du rugby, le Stade français et le Racing 92 vont faire qu'un. Un rapprochement effectif dès la saison prochaine. La maire de Paris se dit inquiète. Anne Hidalgo l'affirme, elle n'était pas au courant du projet. Faux, rétorquent les dirigeants des deux clubs.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Michel Hurvoy de West France, Laurent Mauduit de Mediapart, même si Didier Porte travaille à Mediapart, mais bon voilà, tout ça est très compliqué. Également la porte-parole de Oser le féminisme, Claire Sercombe, et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Alors vous allez l'entendre beaucoup ce terme, plus le premier tour de la présidentielle approche, et plus nous allons en entendre parler, comme à peu près à chaque élection, le vote utile, où le front républicain, selon les sondages, Marine Le Pen est puissante, presque sûre de se qualifier à chaque fois pour le second tour. Alors certains parlent de lui faire barrage dès le premier tour. Souvent, le Front républicain bénéficie à la droite, comme aux dernières régionales, aux élections régionales. Mais là, cela pourrait profiter à la droite et à la gauche, en la personne d'Emmanuel Macron. Claude Barthelone ou Bertrand Delanoë justifient leur ralliement au candidat d'En Marche de cette manière. Si le Front national continue à peser, est-on condamné à des fronts républicains à perpétuité? En tout cas, pour Henri Guénaud, comme pour Brice Hortefeux, si le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, eh bien, le programme de leur journée est déjà établi, on les écoute.
Si au second tour, nous avions face à face Madame Le Pen et Monsieur Macron, j'irais probablement à la pêche pour la première fois de ma vie.
Vous avez une canne à pêche, Brice Hortefeux?
Bah écoutez, j'irai peut-être avec Henri Guénaud parce que je ne pêche pas non plus, même si je suis très attentif avec Laurent Wauquiez au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes au bien-être, au développement de ce sport stimulant qu'est la pêche. Mais
Le Pen Macron.
Écoutez, moi je me place pas du tout dans cette perspective. Encore une fois, moi ce que je souhaite, ce à quoi je crois, ce pourquoi je me bats, c'est pour que François Fillon soit au deuxième tour.
Voilà, c'était Brice Hortefeux, donc le 27 février dernier sur France Info. Claire Sercombe, c'est vrai que Manuel Valls en parlait beaucoup déjà pendant les primaires, Vincent Payon également. Pour vous, c'est toujours d'actualité ce qu'on disait, le Front républicain, vote utile? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, dans l'air, on le voit maintenant à chaque élection?
Alors, j'entends parfaitement qu'effectivement, il y a la nécessité de faire barrage aux partis d'extrême droite, au Front National, etc. Maintenant, moi, je suis de la génération du 21 avril 2002. C'était la première fois que je votais et je me suis pris une claque énorme puisque c'était Jean-Marie Le Pen qui était arrivé au second tour. Et je pense que ça marque aussi une conscience politique. Mais ce que j'ai l'impression depuis 2002, c'est que les politiques n'ont pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment est-ce que, concrètement, on construit une opposition durable au Front National? Est-ce qu'on combat les idées du Front National? Parce que derrière le vote utile, c'est une stratégie électorale qu'il y a et pas un débat d'idées de fond sur ce qu'on propose. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que le premier parti de France, c'est pas vraiment le FN, c'est plutôt l'abstention. Ça revient fréquemment comme analyse. Mais hormis des petits arrangements et quand Claude Barthelone, etc., disent qu'ils vont rallier Macron parce que c'est plus efficace, moi j'ai plutôt l'impression que c'est des règlements de compte.
Voilà, alors c'est ça. Alors,
entre socialistes.
C'est ça la question qu'on se pose, c'est vrai, Michel Hurvoy, c'est quand on entend Bertrand Delanoë et Claude Barthelone, des voix qui pèsent au Parti Socialiste, est-ce que c'est quoi? C'est un prétexte aujourd'hui de dire on fait barrage à Marine Le Pen dès le premier tour pour justifier leur ralliement Emmanuel Macron?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le prétexte et puis il y a une vraie proximité. Je pense que Bertrand Delanoë est assez proche d'Emmanuel Macron. Ça ne se discute pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que le Front républicain, c'est une digue qui ne résiste pas longtemps. Ça marche au début, ça a marché un certain nombre de fois. Mais il y a un moment où, si effectivement il n'y a pas de débat, comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas de choix politique, s'il n'y a pas de réponse aux problèmes des Français, ça ne marchera pas longtemps. Et ça peut même devenir assez cocasse. Vous avez vu, vous vous souvenez tous, qu'aux dernières élections régionales, le Parti Socialiste est allé jusqu'à se retirer dans plusieurs régions, donc disparaître.
En région PACA et en Haute-France.
Et je vous signale qu'il y a 100 circonscriptions, où le Front National faisait plus de 40% au régional, où il peut très bien être élu, ou en situation de l'aide. Vous imaginez le Parti Socialiste se retirait de partout où il y a une menace? Autant démissionner tous tout de suite. Donc ça ne peut pas être une réponse dans la durée.
Laurent Mauduit, vous, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, vous pensez qu'il y a toujours d'actualité, ou en effet, comme l'avait fait, on s'en souvient, un ancien président de région dans l'Est de la France, lui qui avait fait une triangulaire
Écoutez, vu de gauche, je trouve que le débat n'a pas beaucoup de sens, puisque depuis 2008, il y a eu, une sorte de mitridatisation de la droite, d'une partie de la droite républicaine, qui fait que, comme le dit Hamon, à juste titre, il y en a certains au sein du Parti des Républicains qui sont un peu les hologrammes de Le Pen. On entend, vous fermez le poste, vous fermez les images, vous entendez le même propos.
Vous dites comme Alain Juppé radicalisé, il avait employé le terme.
Regardez l'entourage de Fillon, au sens commun. Il y a des gens qui ont des idées. Laissez-moi terminer mon propos. Moi, ce qui me semble invraisemblable, c'est qu'il n'y ait pas de débat
à gauche. C'est-à-dire, c'est la première fois que la gauche, dans les différentes composantes, se présente à une élection en sachant par avance qu'elle perdra. On sait que Hamon et Mélenchon se sont vus en cachette dans un restaurant chilien. Il a fallu qu'il y ait un journaliste par hasard qui les aperçoive. Mais il n'y a pas de débat sur une possibilité, et ce serait ça le vrai barrage. Alors, bien sûr, j'entends l'objection des mélenchonistes. Ah oui, mais on n'est pas d'accord du tout. Ils pourraient se mettre d'accord sur une seule mesure, ça suffirait. Ouais. Une seule mesure. On fait une constituante souveraine.
Oui.
Sitôt l'élection passée, ils sont d'accord.
François Orsival, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer à en parler dans un instant. Parce que vous savez, ici, on est très précis. Et on parlera également de la Turquie. Et puis même si on a le temps, nous parlerons du pape, et oui, qui a 4 ans aujourd'hui. Donc voilà, ça se célèbre en tout cas. Allez, les informés de France Info, revient dans quelques minutes.
Je pensais à quelque chose.
Ah ouais, c'est quoi ?
Si c'est les jours c'est maintenant chez Citroën, c'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 2 400 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1 ultra personnalisable. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après.
Tu es dépassé.
Pendant les jours c'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 2 400 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 mars. Détails sur citroën.fr.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1 060 € tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, Visa SCPI, délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Plus ensoleillé demain, mais il faudra quand même être patient. Un réveil gris, des nuages bas et des brouillards, un peu de bruine près de la Manche. L'après-midi, ça s'arrangera, retour de belles éclaircies. Elles resteront timides du sud de la Bretagne vers l'île de France, la frontière belge. Près de la Manche, on gardera une ambiance grise et humide. Sur les Pyrénées et de la Méditerranée vers les Alpes, l'Alsace, on sera plus gâté. Du soleil dès le matin, parfois un peu voilé dans l'après-midi. Bonne nouvelle, Mistral, Tramontane s'essouffleront. Ça sera plus frais le matin, souvent 1 à 6 degrés, quelques gelées dans les vallées de l'Est, dans l'intérieur de la Normandie, mais 6 à 12 degrés dans le Sud-Est. Et puis l'après-midi, petite hausse, 15 degrés à Lille et Paris, 16 à Nantes et Besançon, 17 à Lyon, 18 degrés à Toulouse et 21 à Nîmes.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Smul, bonsoir.
Bonsoir, le premier jour du procès du terroriste Carlos. Aujourd'hui, près de 43 ans après l'attentat du drugstore à Paris, 2 morts et 34 blessés en 1974. Carlos, qui s'est présenté aujourd'hui comme un révolutionnaire professionnel devant le tribunal. Il comparaît pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et dans la salle d'audience, Françoise Rudetsky, fondatrice de l'association d'aide aux victimes SOS Attentat, elle connaît bien Carlos, qui a déjà été condamné 2 fois à de la prison à vie dans d'autres affaires.
À la virgule près, il tient toujours les mêmes propos. Il n'a pas dévié de son discours. C'est un peu lassant. Il n'a rien fait. Il a été condamné par erreur et il traite les victimes de façon inacceptable. Mais bon, elles étaient préparées. C'est vrai que j'ai fait venir certaines victimes au précédent procès pour qu'elles s'habituent à la logorée du personnage pour être moins surprises.
Est-ce que pour autant c'est utile et c'est important de le juger ?
C'est très important, d'abord en mémoire des morts, pour les blessés. C'est important aussi dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et puis c'est important aussi pour faire progresser le droit des victimes. Le procès fait partie de la reconstruction d'une victime.
La fondatrice de l'association d'aide aux victimes SOS Attentat, au micro de Corinne Audouin pour France Info. Le procès de Carlos va maintenant durer 3 semaines. Au Royaume-Uni, les députés votent ce soir le projet de loi qui autorise le Brexit. Il faut encore que la Chambre des Lords l'approuve. Ça pourrait être fait dans la soirée. L'Écosse, elle, se désolidarise de plus en plus. La première ministre envisage aujourd'hui un nouveau référendum sur l'indépendance du pays. Peut-être un triple infanticide découvert aujourd'hui dans dans le Doubs à Pontarlier. La procureure de Besançon annonce que les corps de trois nouveau-nés ont été retrouvés dans le grenier d'une maison. C'est le père de famille qui a prévenu la police. Il est ce soir en garde à vue avec sa compagne. Les syndicats de policiers sont toujours très en colère après la condamnation la semaine dernière de l'un d'entre eux. Un policier condamné vendredi en appel à 5 ans de prison avec sursis. Il avait tué un détenu en cavale d'une balle dans le dos. C'était en 2012. Le syndicat Unité SGP Police FO appelle à manifester après-demain, mercredi, devant le palais de justice de Paris. Le trafic des trains, toujours perturbé ce soir entre Lyon, Mâcon, Saint-Etienne et Valence. Ça risque de durer jusqu'à demain soir. C'est toujours la conséquence du déraillement d'un train tôt ce matin au sud de Lyon. Un train qui transportait des matières dangereuses. 20 tonnes de bioéthanol se sont déversées sur les voies. L'opération de nettoyage est toujours en cours. 20h33 sur France Info. On retrouve Jean-Mathieu Perlin pour la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Perlin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de ATNT. Et eux aussi, bien sûr, ils sont de retour après un petit break au vestiaire, hein, 3 minutes quand même, hein, le temps d'avaler une barre chocolatée d'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Michel Hurvoy de Ouest France, Laurent Mauduit de Mediapart, Claire Sercombe, porte-parole de Oser le Féminisme et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Justement, François Dorcival, je vous ai coupé la chic tout à l'heure à propos de Emmanuel Macron qui serait pour certains le vote utile face à Marine Le Pen. Aujourd'hui, vote utile, Front Républicain, c'est encore d'actualité.
Alors oui, il faut distinguer ce qui est vote utile de la notion de Front Républicain. Oui. Le Front Républicain à la présidentielle n'a strictement aucun sens puisque, quoi qu'il arrive, il y a deux candidats. Donc les électeurs choisiront entre les deux finalistes. Très bien. En revanche, le vote utile, ça, on voit bien à quoi ça sert. Ça sert à ce que François Hollande et toute la famille Hollande puissent gonfler suffisamment le score de Macron pour s'assurer qu'il soit qualifié. C'est ça leur sujet.
Mais on ne sait
sujet.
Pas si François Hollande soutient Emmanuel Macron.
Mais François Hollande, vous n'avez pas entendu ?
Non.
Il ne fait que des déclarations sur la grande menace de Marine Le Pen.
Oui, mais...
Toutes ces déclarations, c'est la grande menace.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, la grande menace, donc si vous voulez effacer, éloigner la grande menace, voter Macron.
Mmh.
Et c'est comme ça que Macron est de plus en plus le candidat de la gauche.
Et Michel Hurvoy, justement sur ce terme, aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis a demandé à François Fillon de dire pour qui il voterait, un petit peu comme on a entendu tout à l'heure, Brice Hortefeux.
Pour lui d'abord.
Voilà, est-ce que c'est important finalement de le savoir ça, avant le premier tour, de savoir pour qui François Fillon...
D'abord, il le dira pas.
Non, bien sûr. Bah déjà, on sait qu'il dira pas le nom de ses ministres.
Donc ça fait partie du jeu électoral d'obliger l'autre à dire qu'il ne dira pas et donc à démontrer qu'il n'est pas contre le Front National. Enfin voilà.
D'accord. On est là-dedans. D'accord. Ok. Laurent Mauduit.
Pardon, j'allais faire une moquerie et nous renvoyer en arrière une personnalité condamnée à deux reprises pour des questions touchant la probité publique qui interpelle celui qui est menacé par les avancées de la justice.
Ouais.
Voilà. On est dans un théâtre d'ombre obscur.
Et c'est important pour vous, Laurent Mauduit, de savoir les candidats, ce qu'ils feraient au cas où face à ce
groupe. Non, je vous l'ai dit, je pense que depuis 2008, depuis le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, il y a une porosité qui s'est installée, qui a d'ailleurs contaminé une partie parfois même
de
la gauche.
Hein,
je pense qu'autrefois, encore jusqu'à l'époque de Chirac, il y avait une sorte de muraille de Chine entre les idées du côté républicain et de l'autre. Et donc, je pense que pendant un temps, cette question du vote républicain avait au sein même de la gauche des partisans. Je pense qu'avec cette nouvelle porosité, je pense que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Est-ce qu'au sein des républicains, on pourrait aller voir tel ou tel, ils ont des propositions identiques à celles de Le Pen. Donc, l'électorat de gauche a été totalement désorienté et de moins en moins dupe. Et surtout, surtout qu'il n'y a pas de, perspective à gauche
France,
de gagner.
Donc, Laurent répondait à la question. Sous ces 5 années de quinquennat Hollande, qui sont quand même 5 années de quinquennat de gauche, peu importe que celle-ci ne vous plaise
pas
ou pas.
Pas de gauche, c'est pour ça que ça explique le désespoir des électeurs de gauche.
Alors, je vais terminer ma phrase, comme vous les terminez vous aussi, en vous disant, mais enfin, vous avez amené Marine Le Pen à 26-27% d'intention de vote à la présidentielle. Elle était à 18 la dernière fois.
Entre 2007
et 2012,
elle était à 10. Entre 2007 et 2012, elle a bien augmenté, Marine
Le Pen. Et pour une fois, oui, mais alors beaucoup mieux.
Pour une fois, je peux abonder dans votre sens. C'est-à-dire que je vais vous dire pourquoi. C'est que je pense que la montée de l'extrême droite, c'était vrai pendant les années 30, c'est vrai aujourd'hui, a toujours pour origine l'incurie de la gauche quand elle ne répond pas à l'espoir populaire. Et donc, je pense que quand la gauche ne répond pas à l'espoir populaire, ça génère quoi? Ça génère le désespoir radical. Et donc,
c'est de continuer à voter à gauche.
Et donc, je pense que Hollande, conduisant une politique très à droite, a désespéré son camp et pour une partie, contribue à l'envoler de l'extrême droite.
Michel, Laurent Mauduit est d'accord avec les analyses que faisait Nicolas Sarkozy pour expliquer que, effectivement, c'était la faute au Parti Socialiste si le Front National montait. Le Front National progresse à peu près d'un point par an depuis une dizaine d'années. Hein. Jean-Marie Le Pen a déjà accédé au second tour, donc faut pas. Un score qui était beaucoup plus inférieur à celui qui est annoncé pour Marine Le Pen. Donc c'est une progression constante et on voit bien comment elle progresse et comment elle procède Marine Le Pen. Par exemple, c'était frappant de voir le 8 mars, au moment de la journée de la femme.
Justement,
mais de voir comment elle essaie. Enfin, c'était une illustration de plus de sa stratégie par cible. Donc, elle promet des choses à chaque cible. Et là, c'était les femmes, mais une autre fois, c'est les chasseurs.
Sur l'écologie.
Et des thèmes qui sont aussi des thèmes de gauche. Et on voit bien, par exemple, dans son électorat à propos des femmes, qu'il a progressé aussi. Il a progressé. Il y a à peu près 30% de femmes qui votent Marine Le Pen. Elle sait bien qu'il y a là une réserve, donc elle travaille cette réserve.
Claire Sercombe, voilà, c'est vrai que c'est une question. Hein. Marine Le Pen s'est présentée en effet l'autre jour sur RTL comme la candidate des femmes. C'est vrai qu'il n'y en aurait que deux femmes hein, qui pourraient avoir 500 signatures, c'est-à-dire Nathalie Arthaud et elle. Aujourd'hui, dans les sondages, Marine Le Pen est plus importante que Nathalie Arthaud. Est-ce que finalement, vous, qui êtes féministe, de voir une femme qui accède au second tour, est-ce que finalement c'est un progrès dans la vie politique?
Si elle s'appelait pas Marine Le Pen, enfin déjà il y a Ségolène Royal qui a quand même marqué, enfin c'était la première femme à accéder au second tour, donc c'est pas, faut pas dire que Marine Le Pen est la première.
Non, j'ai pas dit la première, mais en 2017.
Encore une fois, on est vraiment face à la stratégie électoraliste du Front National où elle est quand même beaucoup plus maligne que son père n'en ayant jamais rien eu à cirer des droits des femmes, où elle va effectivement tisser, distiller une parole. Elle est capable de citer Simone de Beauvoir dans des discours, ce qui est quand même complètement hallucinant. Mais encore une fois, pour contrer ce discours-là, faut s'en remettre aux faits. Et Marine Le Pen, en tant qu'eurodéputée, elle a systématiquement voté contre tous les textes en faveur des droits des femmes. Les élus au Parlement, parce qu'il y en a en France, au Sénat et à l'Assemblée, ont systématiquement voté contre tous les textes. Et si on prend ce qui se passe dans les villes, c'est les fonds du secours populaire qui sont coupés, c'est la gratuité dans les cantines qui sont supprimées. Et ça atteint les précaires et les plus précaires. Et le planning familial, les plus précaires. Des plus précaires, ce sont les femmes et les familles monoparentales qui sont des femmes. Donc encore une fois, on a le discours et maintenant, grâce entre guillemets au fait que le FN est aux commandes dans certaines villes et est élu au Parlement, on peut vraiment voir que c'est du foutage de gueule ce que peut dire Marine Le Pen sur les droits des femmes.
Allez, dans un instant, on va parler des relations entre l'Union européenne et la Turquie. En attendant l'info à 20h40, c'est Yasmina Adilam.
L'Est des États-Unis en alerte. Une vague de froid s'abat sur près de la moitié du pays. De fortes chutes de neige sont attendues dans la nuit. Des centaines de vols ont été annulés ou détournés. Une rencontre entre Angela Merkel et Donald Trump prévue à Washington a dû être annulée. Des policiers appelés à manifester mercredi à Paris. Mouvement lancé par le syndicat Unité SGP Police FO. Manifestation pour contester la condamnation en appel d'un policier. Il a écopé de 5 ans de prison avec sursis pour avoir tué un fugitif d'une balle dans le dos en 2012. La justice a considéré qu'il n'avait pas agi en état de légitime défense. Une enquête pour viol ouverte à Bordeaux. Elle vise des rugbymen du FC Grenoble. Ils étaient venus samedi disputer un match du top 14 contre Bordeaux Bègles. Une jeune femme les accuse de viol. Les députés britanniques pour le Brexit, ils viennent de voter l'autorisation du projet de loi visant à sortir de l'Union européenne. Prochaine étape pour le texte, la validation par la Chambre des Lords, ce qui pourrait arriver dans la soirée. De son côté, l'Écosse, qui fait partie du Royaume-Uni, est opposée au projet. Un référendum sur l'indépendance sera demandé la semaine prochaine par la Première ministre Nicola Sturgeon.
Des nouvelles commandes pour Airbus, une facture de 740 millions d'euros. Le client, la nouvelle compagnie sud-coréenne Care Airlines. Elle veut acheter 8 A320 pour des vols low cost vers l'Asie du Nord et de l'Est.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Il n'y aurait pas une petite tension avec la Turquie, là? Un petit peu quand même, non? Hein, en ce moment, les rapports entre l'Union européenne et Ankara ont totalement dérapé, on peut le dire, ces derniers jours. En cause, la campagne du référendum, hein, qui se tiendra dans un mois, visant à renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Pour toucher les différentes communautés turques en Europe et les inciter à aller voter, deux ministres avaient fait le déplacement, notamment aux Pays-Bas, dont ils ont été refoulés du territoire. Même chose dans certaines localités en Allemagne, de Suisse ainsi qu'au Danemark. Erdogan a qualifié l'attitude du gouvernement néerlandais, je cite, de nazisme et de fascisme, en promettant de leur faire payer le prix. Ce soir, c'est Angela Merkel et Erdogan qui s'interpellent via des communiqués. En France, hier, un ministre turc a tenu meeting à Metz, coin de France où vit une importante d'ailleurs communauté turque. Et cet accueil a été critiqué par la droite, l'extrême droite et même les écologistes. Mais pour cette femme, vous allez entendre, présente hier au meeting de Metz, les démocrates sont de son côté. Béatrice Boscuse.
Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui pour défendre mon peuple, parce que j'ai été déçue de ce qui s'est passé hier en Hollande. Ils n'ont pas laissé le ministre des Affaires étrangères faire son discours. C'était très décevant pour un parti... pour la démocratie, pour la liberté. Parce que quand on parle d'Europe, normalement, il y a plus. On dit toujours qu'en Turquie, il n'y a pas assez de démocratie. C'est pas un pays libre.
Voilà, donc une participante au meeting hier de ce ministre d'Affaires étrangères turc à Metz. François Orsival, il y a une discussion en ce moment sur le fait, est-ce que la France devait finalement accueillir ce meeting? Certains disent non, on doit être solidaire, voilà, avec nos voisins européens. D'autres disent toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer.
Oui, alors d'abord, première chose... conflit, dites-vous, entre l'Union européenne et Ankara. Mmh. Eh ben non, pas l'Union européenne, puisque la France n'est pas dedans.
Ouais.
Donc, la France s'est spécialement désolidarisée de cette affaire et a autorisé ce meeting à Metz. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en octobre 2015, Erdogan lui-même était venu à Strasbourg. 12 000 personnes. Et soudain, on se rend compte comme ça qu'il y a des communautés, des drapeaux, des meetings, etc., avec des puissances étrangères qui viennent faire des meetings chez nous. Là, ce que je voulais dire, donc, la France n'a pas été solidaire ni de l'Allemagne ni des Pays-Bas, traité de nazis. Et là, nous avons une dame qui, s'exprimant de Metz, nous dit « mais on respecte pas les droits de l'homme en Europe ». Mais la question n'est pas en Europe. La question est de qu'il s'agit de meetings pour défendre un référendum en Turquie renforçant les pouvoirs du parti au pouvoir, qui est un parti islamiste, et en particulier de son président Erdogan. Mmh. Donc là, on est quand même dans un mélange des genres fantastique, et la France n'avait pas à se laisser aller dans cette affaire.
Alors Laurent Baudu, finalement, c'est vrai, pourquoi ça émeut davantage aujourd'hui? En 2015, François Rossiol vient de le rappeler, Erdogan lui-même est venu faire campagne pour des législatives à ce moment-là, et c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé. Pourquoi maintenant, en fait?
Mais écoutez, moi je trouve que c'est un aspect, pour une fois je suis d'accord avec mon vis-à-vis, il y a un aspect très doublement choquant, d'une part parce que ce que vit ce pays est un drame démocratique.
La Turquie
est une oppression. Et donc, il y a un aspect, je trouve, très honteux. Et d'autant plus honteux qu'il y a une sorte de continuité de la position française, de tolérance. Si je dis ça, c'est que, par exemple, pour ne prendre qu'une seule profession, celle des journalistes, qui est très durement réprimée, c'est la plus grande prison du monde pour les journalistes.
Hein,
combien? 150 journalistes en prison.
Et notamment depuis le mois de juillet.
Des journaux fermés. Et quand la vague de répression s'est abattue, notamment sur les journalistes, mais pas seulement sur eux, sur tous les militants qui défendent les droits de l'homme, la France a été excessivement timide, inaudible. Il y a des journalistes, notamment l'un des grands journaux d'opposition qui a été fermé, qui est interdit de séjour, qui est maintenant en France. C'est plein de la timidité française. Nous avons besoin de votre soutien. Et donc la France a été silencieuse et aujourd'hui, elle se compromet en acceptant un tel meeting.
Michel Hurvoy, c'est vrai que c'est ça qui est assez étonnant, c'est cette... position notamment de la France par rapport à la Turquie. De temps en temps, on peut frapper du poing sur la table quand on parle des migrants, de l'accueil, etc., de quel rôle ils doivent jouer. Et puis, de l'autre côté, on ne dit plus rien. On a l'impression qu'on joue d'un jeu assez flou, en fait, finalement, avec la Turquie.
Je ne sais pas si c'est nous qui jouons ou si c'est la Turquie. Je pense que c'est Erdogan qui fait de la triangulation.
Certains disent, excusez-moi, je vous coupe juste, dans une interview au Monde ce soir, c'est aussi, ils disent, Recep Erdogan est assez violent dans ses propos par rapport aux Européens parce qu'il a besoin d'ennemis, en fait. Voilà.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, il se cherche des ennemis imaginaires pour flatter les réflexes nationalistes. Il y a un référendum le 16 avril, il n'est pas sûr de le gagner. Ce référendum, je le rappelle, c'est pour accroître considérablement ses pouvoirs.
Régime présidentiel.
Donc aller dans le sens de la répression qui était condamnée, là. Et donc, comme il n'est pas sûr de gagner, il utilise des pays qui... Alors, c'est là où il fait de la triangulation. C'est des pays qui ont besoin de lui dans la crise migratoire.
Bien sûr.
L'Europe a besoin de la Turquie, en tout cas, elle le pense, et la France a besoin de la Turquie. Et donc, on est piégé. Enfin, ça rend très difficile... la condamnation ou l'interdiction de séjour d'un ministre des Affaires étrangères. Benoît Hamon, par exemple, a validé la position française.
Ah oui, mais au nom du pays des Lumières.
Nom du pays des Lumières. Ouais, mais c'est intéressant.
Ah, oui, bien sûr.
C'est intéressant. Parce qu'on voit bien toute la difficulté qu'il y a à créer une solidarité européenne sur une question comme celle-là. Les autorités allemandes qui ont interdit des réunions sont des autorités locales, considérant qu'il y avait un risque pour l'ordre public. En France, on a considéré qu'il n'y avait pas de risque pour l'ordre public, donc le préfet a autorisé le meeting, et en plus, il y a la liberté de réunion. C'est tout ça dans la balance. Donc
C'est vrai, Michel, mais enfin, quand même, on sait très bien que quand il y a des étrangers sur notre sol qui se mettent à manifester avec des drapeaux, etc., c'est un événement politique qui concerne quand même
le gouvernement. François Dorcival, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français.
C'est difficile d'interdire des réunions avec lesquelles on n'est pas d'accord.
Ce qui est terrible... Pardon.
Allez-y,
une petite notation supplémentaire. Ce qui est terrible, je trouve, dans cette histoire, c'est que je ne suis même pas sûr que la puissance publique française éprouve le sentiment qu'elle ait besoin de la Turquie. Je pense juste qu'il n'y a pas de politique étrangère. Je pense qu'il y a une sorte de... On vit un effondrement de ce quinquennat et qu'on laisse faire sans afficher la moindre ambition.
Claire Sarcombe, ça vous a choqué que la France, finalement, tolère, alors que d'autres pays, aujourd'hui, disent on empêche, finalement, la tenue de ce genre de...
Je pense qu'il faut rappeler... quel est ce parti AKP et les positions qu'ils ont aussi sur la thématique des droits des femmes. Erdogan, c'est quand même quelqu'un qui a expliqué que l'égalité femmes-hommes est contraire à la nature humaine. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est au pouvoir, mène la guerre contre les droits des femmes. On peut parler de Pinar Selak, qui est aussi réfugié en France, injustement accusé et condamné récemment à la réclusion criminelle à perpétuité pour des choses qu'elle n'a pas commises juste parce qu'elle a enquêté sur les exactions du gouvernement. Asli Erdogan aussi, les journalistes réprimés, qui a passé plusieurs mois en détention. Ils ont tenté d'entraver un peu plus le droit d'avorter en Turquie. Il y a une augmentation des violences faites aux femmes dans ce pays.
Alors, pour vous, justement, est-ce qu'il y a des partis? Parce que c'est la question, on va en parler juste après, mais pour vous, est-ce que c'est normal que ça se tienne, ce meeting? C'est tenu hier à Metz.
Je pense que ça a été bien résumé. Ouais. On est au croisement entre liberté d'expression, etc. Maintenant, c'est un meeting politique avec
liberté
des propos...
Mais on n'est pas obligé... Il faut que la liberté d'expression soit totale pour les résidents français, mais quelqu'un qui veut instaurer un régime tyrannique, la liberté d'expression, l'aspect de violence faite à son peuple qui prime, et donc on a envie d'entendre la défense des valeurs démocratiques.
Alors, on va en parler dans un instant, vous savez, on est toujours très précis. L'info à 20h50, c'est Yasmina Adila.
La circulation des trains perturbée jusqu'à demain dans le Rhône. Un train fret a déraillé au sud de Lyon. Pas de victimes, mais le plan Orsec est déclenché. Une figure de la déradicalisation jugée à Paris. Cette femme était responsable d'une structure chargée d'accompagner les familles de jeunes tentées par le djihad. Elle écope de 4 mois de prison avec sursis. Et elle doit verser également près de 25 000 euros de dommages et intérêts. François Fillon a dévoilé les grandes lignes de son programme. Le candidat de la droite parle de mettre fin aux 35 heures, de ramener l'âge de la retraite à 65 ans ou encore de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. François Fillon veut également soumettre à ses ministres un code de bonne conduite. Le candidat de la droite est lui-même empêtré dans une affaire d'emploi fictif présumée visant sa famille. Il sera devant les juges dans moins de 48 heures en vue d'une possible mise en examen.
Artur Mas condamné, l'ancien président de la région espagnole de Catalogne, écope de 2 ans d'inéligibilité. Jugé coupable de désobéissance, il a organisé une consultation sur l'indépendance il y a 4 ans, malgré une interdiction de la justice. La Fédération française de rugby choquée par le projet de fusion entre le Stade français et le Racing 92. Les deux clubs ont annoncé aujourd'hui leur rapprochement, fusion qui sera effective dès la saison prochaine. Les joueurs du Stade français ont demandé à être reçus par la FFR. Demande acceptée, ils seront reçus demain après-midi.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question à propos de la Turquie. Monsieur Orvois, est-ce qu'on voit que la tension la plus forte, la plus palpable, c'est entre les Pays-Bas et la Turquie? On sait qu'il y a des élections mercredi aux Pays-Bas, des élections. Alors c'est vrai que normalement on ne parle pas trop des élections aux Pays-Bas, mais là elles sont importantes parce c'est un parti populiste qui est en tête, un parti assez radical, hein, qui veut même l'interdiction du Coran, la fermeture de mosquées. Est-ce qu'il y a eu aussi une volonté de la part des pouvoirs publics de ne pas aller vers une discussion, vers une thématique avec justement ce parti populiste à propos de meetings concernant la politique d'Erdogan?
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le parti d'extrême droite avait demandé l'interdiction de ces réunions publiques et il y a une quinzaine de jours, je crois. Et aujourd'hui, le pouvoir en place va dans son sens pour ne pas attiser, voilà, et donner une chance supplémentaire à l'extrême droite. Donc il y a, quand je parlais de triangulation tout à l'heure, c'était la troisième pointe de ma démonstration, c'est de jouer des situations nationales pour essayer d'entraîner des surenchères entre formations politiques au sein de chaque pays.
C'est ça. Laurent Mauduit, finalement, c'est ça qui frappe, c'est qu'en effet, il n'y a pas de position commune sur l'Union européenne. On a l'impression que quel que soit le sujet, aujourd'hui, ça devient impossible pour l'Union européenne de résoudre un problème, de s'attaquer de front, de trouver une solution, de réfléchir ensemble.
Oui, c'est exact. C'est aussi exact que la diplomatie française aura connu un naufrage comme depuis 2012. C'est-à-dire, on aurait pu épouser des grandes causes démocratiques, épouser les révolutions démocratiques arabes, défendre la cause démocratique partout dans le monde, inventer une nouvelle diplomatie après celle de Sarkozy, et donc en fait le naufrage a atteint aussi ce domaine-là. Quoi. Les causes démocratiques n'ont pas été portées par la diplomatie française.
Ouais, mais tout ramener à Hollande, là, je trouve c'est un peu systématique et automatique. Je pense que la question elle est européenne en l'espèce.
Il fallait une volonté française pour porter un projet. Quelle diplomatie européenne? Laquelle?
François Lorcival, ça frappe là quand même.
Chaque fois qu'on se trouve devant un problème de cette nature-là, eh bien, il y en a qui trouvent le moyen de se coucher. Et donc, il n'y a pas de solidarité européenne dans ce domaine. Je rappelle que les relations entre l'Allemagne et la Turquie sont particulièrement chaotiques, alors que l'Allemagne a une communauté turque sur son territoire.
C'est la plus importante d'Europe, bien sûr, c'est la plus importante. Mais justement, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui? Est-ce que vous voyez, quand on voit certains candidats, Marine Le Pen qui dit qu'on va sortir de l'Europe?
Vous avez absolument raison. Je veux dire par là que le 8 mai au matin, l'élu du 7, il aura immédiatement à traiter quoi? Pas des 35 heures, pas de la sécurité sociale, des sujets étrangers. Le président de la République, c'est le chef de la diplomatie. Eh bien, il se trouve quand même que pendant 5 ans, on n'en a pas eu.
Ouais, Claire Sarcombe, est-ce que vous avez l'impression que finalement, on ne pensait pas que l'Europe allait peut-être s'inviter dans cette campagne? C'est vrai qu'on parlait beaucoup et on en parle, et c'est normal, c'est le premier problème en France sur le chômage, on parle bien sûr de la sécurité, mais on a vu finalement qu'il y avait des vraies différences. Par exemple, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon se sont écharpés sur l'Europe. On voit Emmanuel Macron qui dit qu'être pro-européen, c'est une provocation aujourd'hui. Voilà, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est l'Europe s'est invitée et qu'il y a de quoi faire? Parce qu'on voit qu'à chaque fois que l'Europe se saisit d'un problème, ça ne marche pas.
Mais je pense que l'Europe, à la base, c'est une très très belle idée, mais qui est complètement déconnectée maintenant des réalités. On voit ça comme une menace avec des directives qui nous tombent dessus, qu'on doit transposer dans le droit, etc. Avec une Europe qui n'est pas harmonisée. Enfin, si je prends sur le terrain des droits des femmes, au sein de l'Union européenne, vous avez des pays où si vous avortez, vous risquez d'aller en prison, comme à Malte, et puis d'autres comme les Pays-Bas qui sont extrêmement, ou la France, qui sont extrêmement progressistes en la matière. Donc, on atteint aussi les limites de quelque chose, c'est vu comme étant technocratique. Et effectivement, c'est un argument, mais en creux, j'ai l'impression, dans cette campagne, où on va instrumentaliser l'Europe comme étant la responsable de tous les maux.
C'est ça, comme toujours.
Mais plus qu'auparavant, j'ai l'impression, en tout cas.
Oui, Laurent Mauduit, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est vrai qu'on y a, je parlais de Marine Le Pen tout à l'heure, elle en parle clairement, disant qu'il faut en sortir. D'autres disent, non, il faut y rester, il faut sortir des traités. Enfin, voilà.
Le débat a quand même beaucoup évolué depuis 2012. Hein. Je pense qu'on vit, là, c'est un élément de fait, une situation de désintégration. Et donc la question n'est pas de savoir sortir, de pas en sortir. La question est de savoir quel est le projet pour reconstruire quelque chose d'autre. Et donc, je trouve que le débat est dans des termes totalement nouveaux.
Totalement nouveau, c'est le cas. Et sûrement, on en parlera demain, puisqu'on parlera également du Brexit et des Écossais, eux, qui veulent rester en Europe. Allez, les Informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Claire Sercombe d'être passée. Merci à Laurent Mauduit. Michel, revois la une de West France demain.
Eh bien, nous allons parler de François Fillon, puisqu'il a présenté son projet. Eh bien, non, mais ça... Ça fait, il n'y a pas que les affaires dans la vie.
Exactement.
Donc il y a un projet Fillon que l'on présente et décortiquons.
François Dorcival. Et nous, Macron.
Ah, bah, tenez, voilà. Ça change un petit peu.